Je, parce que sinon, je suis obligé de te demander des autorisations. Voilà. Là, c'est en train d'enregistrer. Moi, ce que je te propose, c'est de lancer la séance. Donc, je m'excuse auprès des étudiants. Là, faut qu'on se mette en place. C'est pas forcément évident. Il faut savoir qu'on a prévu avec le professeur Laurent Gournay une autre séance en direct qui sera la dernière, je crois que c'est le 1er avril, hein, je crois que c'est ce qu'on avait dit, Laurent. Ouais. Mais là maintenant, je vais vous laisser. Moi, je vais repasser en off, comme ça, j'entendrai rien. Puis j'ai d'autres choses, je vais évidemment pas tout suivre. Si jamais vous voulez m'alerter sur quoi que ce soit, vous m'envoyez un message via WeChat et je reviens dans la réunion. Voilà. Dans le cours. Ça va pour toi, Laurent, comme ça?
Oui, ça va.
Encore une fois, je pense que si tu veux commencer par des séances de questions, ils peuvent te les poser en écrit ou alors directement avec leur micro.
Ouais,
C'est comme tu veux. Je te laisse la main.
Ok, on va essayer.
Voilà, je vous laisse. Je coupe mon micro.
Bonjour à tous. On va essayer de. Voilà, je vois plus Nicolas. J'espère que vous m'entendez tous. Oui, allez-y. Vous m'entendez? Ah. Alors, c'est Nick. Moi, je m'entends parler. Par contre, vous, je ne vous entends pas. Nicolas?
Oui, ils sont en train de te répondre oui, là, tous par écrit, là, sur la fenêtre de conversation. Donc, tu arrives à t'afficher cette fenêtre-là. Moi,
C'est bon.
j'ai coupé mon micro et ma caméra, mais je vous entends pour le début. Je veux juste voir si ça fonctionne bien. Et puis,
Okay.
voilà.
Est-ce que tu penses qu'ils peuvent prendre la parole
Oui, moi,
maintenant?
je leur ai dit de couper leur micro parce qu'en mode fonctionnement normal, c'est mieux, sinon tu vas entendre plein de bruit, puis ça leur permet, eux, d'écrire, de faire du bruit de leur côté sans que ça dérange. Mais par contre, s'ils veulent prendre la parole, là, par exemple, je vois Michel qui vient d'arriver, qui a son micro, il peut très bien parler, on l'entendra. Évidemment, je trouve que c'est très bien aussi, hein, s'ils veulent parler plutôt qu'écrire, je pense qu'il faut pas qu'ils hésitent. Voilà.
On y va.
Ok,
Alors, je
je vous
dirais,
laisse.
vous avez la. Bonjour à tous. Je vois vos petits messages dans la zone Zoom. Pour des raisons d'amélioration de flux, on fait juste de l'audio parce que ce n'est pas si simple que ça. Alors, je dirais, on peut commencer par quelques questions. D'abord, je voudrais vous rassurer peut-être de manière générale. Sur le serveur, on fait au mieux. J'ai mis des dates à chaque fois de 10 jours, vous avez vu, mais vous inquiétez pas, vous faites tous au mieux. Et puis, je dirais que on fera l'évaluation sur l'ensemble de vos documents. Donc, je dirais pas de stress supplémentaire. Maintenant, on va profiter de cette séance pour, j'irai d'abord répondre aux questions, puis après, je parlerai d'un des cours qui est peut-être un peu plus difficile que les deux premières séances. Allez, je vous laisse la parole. Est-ce que l'un d'entre vous veut se lancer? Alors, j'entends pas celui. Je laisse la parole. Qui veut parler? Vous avez tous vos micros coupés. Alors, je propose que celui qui a envie de parler, bah, il y en a un qui se lance, qui prend la parole. Ouvrez votre micro et puis commencez. On y va. Ah, je t'entends, Aurélia. Tu as ouvert ton micro? Donc Aurélia a voulu commencer à
Oui,
parler.
oui. Oui, bonjour monsieur. Vous pouvez m'entendre?
Je t'entends bien.
Ok. Fiona a déjà posé une question. Est-ce qu'on doit faire des exos sur Newmark?
Alors, non, les exercices sur Newmark, en fait, j'ai fait par séance, j'ai essayé de découper le cours. Partie 2 du cours, si c'est de ça dont on parle, ça parle en grande partie de la mise en équation du deuxième ordre au premier ordre. Et ça, forcément, ça peut servir pour après faire un schéma numérique Euler implicite, Euler explicite. Par contre, si c'est pour faire une marque, comme vous avez vu dans les exercices, eh bien, il y a uniquement à appliquer, je dirais, les formules. Alors, on peut les démontrer, mais si on les applique, on peut directement traiter l'équation au deuxième ordre. Et je vais te dire autre chose, je vais vous dire à tous, si vous regardez bien les exercices de travaux dirigés, souvent, vous avez la réponse dans le cours, surtout au début. J'ai remis beaucoup de choses pour vous aider à faire les lignes de programmation. Et sur Neumark, eh bien, je dirais oui, on le fera et on le fera dans la séance 3. Ça te va, Aurélia?
Oui, et j'ai une autre question pour le cours. En séance 3, il y a le schéma d'intégration de Hunger-Kutta. Oui. Je ne peux pas bien comprendre le schéma, c'est-à-dire le dessin avec QT.
OK. Donc, je vais dessus. Je vais sur la séance 3, j'en profite. Alors, c'est le slide 24 de la séance 3. Alors, le dessin, en fait, ce qu'il montre, c'est que le schéma de Runge-Kutta, en fait, est un schéma de type explicite. C'est-à-dire que si on connaît la solution au temps initial, de proche en proche, petit pas par petit pas, on trouve la solution au pas d'après. Donc, en gros, si on sait tout en T0, on peut calculer en T1. Et pour cela, en fait, le petit schéma montre que c'est comme si on faisait des tirs de tangentes à différents instants décalés. Donc, ces différents instants décalés font que le schéma en lui-même, c'est-à-dire si on prend ce qui est écrit UN plus 1 sur le slide 24, UN plus 1 égale UN plus K fois delta T, eh bien, la partie tangente est calculée comme une somme de tangentes à différents petits instants décalés. Et c'est ce que modélise le dessin en disant on met toutes les tangentes au même point. Dans les faits, les tangentes s'enchaînent les unes derrière les autres avec les formules de K1, K2, K3, K4. Est-ce que c'est un peu plus clair? C'est comme un schéma de l'air, comme si on faisait un schéma de l'air explicite, mais plusieurs fois, en plein de petits pas, en 4K, en 4 fois, pour aller au temps N plus 1, entre N et N plus 1.
Alors, est-ce que ça veut dire on a calculé 4 fois le temps rang?
Ouais, en 4 points différents. En 4 points différents. Un peu décalé.
Ok, merci.
Et au point de vue pour compléter, donc comme vous voyez les formules sur le côté, à chaque fois, la première fois K1, c'est la tangente au temps Tn, et après K2, c'est plutôt ce qui est pris en Tn plus un accroissement delta T sur 2, où on a été rechercher l'autre solution avec ce qu'il y avait avant.
Oui. Je reprends la parole pour vous dire que comme on a rebasculé sur Zoom et que c'est sur mon compte, on est limité. Vous savez qu'ils ont ouvert, comme sur Jumu, depuis avec l'arrivée de ce virus et de l'épidémie, ils ont ouvert pour tout le monde, enfin, ils ont ouvert la durée des réunions. Mais lorsque ça marche que lorsqu'on a un compte qui a été ouvert en Chine, c'est pas mon cas, donc ça va couper dans une vingtaine de minutes. Donc je recréerai, on fera une petite pause et je recréerai une réunion pour qu'on bascule sur une nouvelle réunion. Je suis désolé, j'ai pour l'instant pas d'autre solution. Et d'autre part, Laurent, je pense que tu dois pouvoir partager ton écran pour leur montrer des choses sans que ça soit trop gourmand en termes de connexion, je pense. Enfin, c'est à tester, mais...
Je vais faire ça pour la suite.
Je pense que ça, en fait, je pense que ça consomme pas trop de bande passante. Enfin, c'est à tester. Ouais, ouais. Voilà. Je vous laisse à nouveau. À tout à l'heure.
Merci, Paul. Alors, je vais. Hop. S'il y a d'autres questions, en attendant, on peut continuer la séance de questions pendant que je prépare pour vous montrer. Alors, j'ai envie de dire, y a-t-il des questions sur les séances 2? Puisque 1, vous avez tous rendu. 2, ça ressemble beaucoup à la séance 1. Donc voilà, je laisse la parole, j'entends un micro s'ouvrir. Michel?
Ah oui, monsieur, j'ai une question. C'est encore pour le schéma de Hongkuta. Ouais. Et pour faire ce type de solution, il nous faut d'abord calculer, comment dire, une fonction f, grand f, qui a un lien avec ut et t. Alors, ça veut dire il y a deux variables. D'abord, c'est un, et ensuite, c'est t. Dans la réalité, quand je faisais les exercices l'oscillateur conservatif linéaire à entrée de liberté, je vois que quand j'essaie de calculer la formule f, le grand f, il n'y a pas de terme pour t. Il y a seulement un lien avec un. Alors, maintenant, on peut négliger le terme t. C'est ça?
Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans une équation différentielle, si j'écris dx dérivé par le temps égale une fonction de x et du temps, en fait, le temps peut exister ou pas. Ça dépend des exercices. Et effectivement, jusqu'à présent, il n'y avait pas de temps. Donc, le temps, c'est juste un peu comme un paramètre d'avancer dans le temps, mais il n'est pas dans l'équation. Donc, effectivement, on dit qu'il y a un temps. À chaque valeur du temps, il y a une solution, x de t, mais par contre, le temps n'est pas vraiment dans l'équation. Mais ça n'empêche pas qu'on en a besoin dans le schéma numérique quand même. Il n'est pas dans l'équation, mais il est dans le schéma numérique.
D'accord, alors, d'accord, merci.
Il me semble, alors, je suis presque sûr, pour Hongkuta, si vous regardez le slide 26, en fait, vous avez le schéma numérique. Donc, alors, le temps s'appelle la variable T6 sur le slide, et on va de 0 à 20. Alors, 20, ça peut être 20 secondes, 20 minutes, ça dépend de comment est la suite de l'équation. Donc, on va de 0 à 20. Avec un delta t de 0,04, comme vous avez vu. Il y a une solution initiale au point de vue variable. Vous avez vu que j'appelais généralement q la variable et dq la dérivée de la variable. Donc, sur l'exemple qui est présenté, q0, c'est 0 et q point au temps 0, c'est 0,25. Est-ce que vous voyez, j'espère que vous voyez tous le slide 26. Mettez-vous sur le slide 26 de la séance 3. Et donc, à ce moment-là, vous voyez une boucle qui commence au pas numéro 2, car on a déjà le pas numéro 1 qui est en bas à gauche. Et là, vous avez le calcul du schéma de Hongkuta, qui est un schéma d'ordre 4. Donc, on calcule K1, K2, K3, K4, vous les voyez. Et à chaque fois, il y a ce que j'ai appelé XC, qui correspond au décalage en temps où on calcule la pente K. Donc, comme je vous disais, si on fait ça, ça veut dire que cal underscore sous-tiret FC, c'est bien la fonction que vous choisissez. Et donc, le temps, on en a besoin en théorie, c'est pour ça qu'il est calculé au travers des variables XC, mais tout dépend de la fonction cal sous-tiret FC que vous allez choisir. Et par exemple, la fonction, elle peut être donnée directement, ou ça peut être aussi obtenu par un passage du deuxième ordre au premier ordre. Donc, si vous regardez par exemple le slide plus, on va dire, de l'équation, de Van der Poel. Si vous regardez l'équation de Van der Poel, c'est-à-dire le slide qui est juste avant le numérique, c'est-à-dire le slide 25. Donc on avait d'abord le schéma de Rajkutta et après on a l'équation Balthasar-Van der Poel. Donc si vous la regardez, ça c'est bien une équation du deuxième ordre. Elle est en haut, c'est de Philips pour les ampoules au départ, 1927. Donc, on voit bien la dérivée seconde par rapport au temps de x. Après, c'est une équation non linéaire. Donc, il y a x au carré moins 1 qui est entièrement multiplié par la dérivée en temps qu'on peut appeler x point. Dx sur dt, on peut l'appeler x point. Et après, il reste encore plus x. Le tout égal à 0. Donc, si vous voulez appliquer Rajkutta sur cette équation, il y a la première façon de faire, c'est effectivement de passer du deuxième ordre au premier ordre. Donc, pour faire ça, vous allez poser, par exemple, si on regarde le fichier cal sous-tiret f qui est marqué sur ce slide. Alors, c'est en instruction MATLAB, on part du principe, on connaît tous à peu près MATLAB. Donc, si vous regardez fonction, je passe la syntaxe. Plus intéressant, vous voyez écrit DUC de 1 égale UC 2 et puis DUC 2 égale quelque chose. Alors, comment vous faites ça si on fait que des maths? Alors, je vous propose, on va le faire ensemble. Vous avez tous un papier et un crayon. Vous allez poser en maths. Vous allez dire, je prends une variable que j'appelle X1 et cette variable X1, je dis que c'est X. Le x de cette équation. Et puis après, je prends une variable x2 et je dis que x2, c'est égal à ça va être égal à dx sur dt. Alors, au lieu de dire dx sur dt, on peut dire x point. Donc, je résume, on introduit deux variables, on essaye de passer du deuxième ordre au premier ordre et on dit x1 égale x, x2 égale x point. Ah, je vois. Je ne sais pas. Ok, non, ça marche. Donc, x2 égale x point. Une fois que vous avez fait ça, finalement, vous regardez votre variable x1 égale x. Eh bien, si vous dérivez x1, dx1 sur dt, ça vaut bien sûr x point, ça vaut donc x2. Et si vous prenez la variable x2 qui s'appelait au départ x point, eh bien, elle, vous la dérivez, donc vous écrivez dx2 sur dx, c'est donc la dérivée seconde de x, et à ce moment-là, la dérivée seconde de x, par miracle, eh bien, vous la remplacez par votre équation, c'est-à-dire par l'équation qui est de Van der Poel, qui est non linéaire, et qui vaut donc moins x2 moins 1, x point, moins x. Je pense qu'il n'y a pas de faute de signe, ça me paraît juste. Et une fois que vous avez fait ça, et bien ce que vous allez faire, c'est remplacer à chaque fois x par ou du x1 ou du x2. Donc vous voyez tous que quand vous voyez x point dans votre équation, x point, c'est donc du x2. Et quand vous voyez x, c'est du x1. Et en faisant ça, vous voyez apparaître le système de deux équations à deux inconnues, différentielles non linéaires, qui sont en bas dans le programme CALF, où on a bien écrit que DUC, au point de vue informatique, dans la case 1, comme j'utilise un programme avec deux cases sur MATLAB, donc DUC, ça représente le fameux X, la dérivée de X1 qui vaut X2, et DUC2, eh bien, vous remarquez que c'est bien l'équation dans laquelle j'ai remplacé X au carré, eh bien, X au carré, c'est bien la partie X1 au carré qui informatiquement s'appelle UC1 au carré, et ainsi de suite. Alors, ce passage deuxième ordre, premier ordre serait plus simple si j'avais un tableau. Est-ce que si cette partie-là vous paraît plus claire, ici vous avez bien la fonction CALF qui, en théorie, dans Ranch-Kutta, peut dépendre du temps, et vous remarquez que cette équation, elle, non, elle aussi, ne dépend pas du temps. Je vous redonne la parole. Je vois Nicolas aussi.
Monsieur, j'ai une autre question.
Je t'écoute.
Ah oui, d'accord. C'est pour le terme, le temps critique. Je sais que pour un système simple, vous avez donné la formule du temps critique, mais pour un système plus complexe, c'est pour, par exemple, ce que j'ai raconté pour l'exercice à double pendule. Il me demande aussi à calculer le temps critique, mais maintenant, je ne sais pas comment faire.
Alors, le temps critique, en fait, Alors, dans l'exercice, tu dis du double pendule ?
Ouais.
Ok. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, d'une manière générale, dans l'exercice, il y a deux façons de faire. Ou on te demande exactement la valeur, ou exactement, ça peut être compliqué. Donc, on peut la chercher petit à petit en faisant varier le pas. Mais d'un point de vue théorique, il faut regarder les valeurs propres du système. Et c'est la seule façon de faire, puisque comme vous avez vu sur Euler explicite ou implicite, si vous regardez les valeurs propres du système, si valeur propre est plus grande que 1 en module, vous allez avoir… Alors, cette valeur propre, vous la regardez, vous dites, elle doit être… Si elle est égale à 1, il n'y a pas d'amplification du schéma. Cette valeur propre peut être fonction du pas de temps. Si la valeur propre est fonction du pas de temps, ça va vous créer une condition sur le pas de temps. Par exemple, si vous dites la plus grande valeur propre, je veux qu'elle soit égale à 1 et que cette valeur propre est une fonction du pas de temps, ça vous donne le pas de temps qu'il ne faut pas dépasser pour avoir une valeur de 1 sur la plus grande valeur propre. À ce moment-là, ça vous donne le pas de temps critique. Ça, c'est la façon théorique de faire, que l'on peut faire dans des cas simples. Et dans le cours, vous avez remarqué, si je reprends la séance 1, ça va être la séance 2, donc cours séance 2, on voit que le schéma a effectivement été le schéma, on a regardé les valeurs propres pour le schéma de l'air explicite, par exemple, et on a vu, donc c'est slide 10, du schéma. Alors, si vous prenez le cours séance 2, 10, vous avez effectivement le calcul des valeurs propres. Et ce calcul des valeurs propres, alors il est donné là ou après, on s'aperçoit que pour l'air explicite, on a un schéma qui, quoi qu'il arrive, est plus grand que 1, puisque ça dissipe de l'énergie. Si vous regardez, ça dissipe de l'énergie et on voit l'amplitude de plus en plus grande sur le slide 11. Quand on compare la solution exacte et la solution de Euler explicite, on voit en bleu la solution exacte et en rouge, on s'aperçoit que la solution devient de plus en plus grande en amplitude. Ça veut dire que la valeur propre est effectivement plus grande que 1. Mais pour répondre très précisément à ta question, effectivement, si on n'est pas capable d'avoir de solution exacte, eh bien, on peut au moins l'observer numériquement en faisant différents calculs avec différents pas de temps. Vous remarquez quand même, et pour répondre complètement, à Michel, vous remarquez que je vous ai mis des programmes MATLAB pour regarder, aller chercher informatiquement, calculer numériquement ces pages 24 du cours 2. Je vous ai dit, on peut créer une matrice en symbolique. Alors, vous n'avez peut-être pas tous regardé encore tous les cours. Dans ce cours, il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a la théorie, la programmation. Et ce qui est difficile, c'est de passer toujours de la théorie à un vrai problème à résoudre. Et donc, page 24, pour vous aider, eh bien, vous aviez le calcul de la matrice d'amplification avec du calcul formel. Alors, le calcul formel, si vous avez, je pense, si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller voir dans MATLAB, vous irez voir. Donc, on vous dit, on peut déclarer des variables formelles avec l'opérateur SIM. C'est la page 12 du cours 2. Donc, on vous dit, on peut déclarer des variables formelles. Donc, on fait une matrice formelle. Ici, c'est la matrice de Euler explicite qui est faite. Et avec l'opérateur EGG, vous avez calculé les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice qui sont mis dans les variables Z et D sur cet exemple-là. Et vous pouvez calculer aussi les parties réelles imaginaires et la valeur absolue du module. Et ça, ça vous fait une belle expression. Et cette expression-là, il suffit de dire que si elle est égale à 1, vous allez trouver un pas de temps critique. Ça, ça serait la façon de faire exacte. Est-ce que ça répond à ta question, Michel ?
Oui, d'accord, merci. Merci beaucoup.
Je reviens parce que j'ai eu une alerte comme quoi ça allait s'arrêter.
Oui. Ouais.
Cette première session, dans quelques minutes, dans 5 minutes. Alors, j'ai déjà créé une nouvelle réunion. J'ai envoyé via WeChat directement dans le chat les nouveaux paramètres. Bon, ça fait un copier-coller bizarre, mais je vois que tu as aussi des questions qui ont été posées via le chat. Je vous engage donc à basculer sur l'autre réunion. Est-ce que toi, Laurent, tu vois là dans le chat le nouveau lien?
Attends, je vois.
Je te l'envoie.
Ouais, je vois. Zoom, AEWH, etc.
Enfin, c'est tu as l'identité de la réunion, enfin, tu as le lien, mais je peux l'envoyer également par mail si tu veux.
Au cas où, on voit par mail. Ok.
Voilà.
On dit dans 5 minutes ?
C'est à 45, elle commence à 45. 45. Donc je la lance immédiatement, je coupe celle-là et je la lance immédiatement.
Merci Nicolas.